contempler la face de Jésus. Ou pour plagier la parole de Dieu, nous voulons voir Jésus. Cela résume, en fait, l'objectif de notre vie d'enfant de Dieu. On m'a raconté qu'aux USA, dans une assemblée, il y a devant les prédicateurs ces mots « Nous voulons voir Jésus ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour un enfant de Dieu? Encore un mot de présentation. Tu as dit des choses, Guy. Tu as oublié une chose fondamentale. C'est qu'Anne-Marie et moi, nous sommes les parents de Valérie, notre aînée, et de Sylvain, que vous allez accueillir le 3 décembre, ou le 4, comme directeur de Teen Ranch. Et cela explique des choses. Quand vous lisez la Bible, il y a des textes, des récits qui peuvent vous sembler pour les autres ou pour l'époque. Quand je lis la tentation de Jésus, c'est pour Jésus. Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Et pourtant, vous savez que la Bible affirme qu'il n'y a rien qui n'ait été écrit, qui ne soit écrit pour notre instruction. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est celui de la transfiguration. Est-ce que voir Jésus en gloire, contempler la face de Jésus, peut changer mon quotidien ? Est-ce qu'il peut s'appliquer à moi, ce texte, ou uniquement pour ces trois disciples qui l'ont vécu? La transfiguration, en résumé, c'est voir Jésus au sommet de la révélation. Alors, les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, nous parlent de ce texte que nous allons lire, et fait inhabituel, les textes sont quasi identiques. Nous savons que les trois évangiles sont souvent complémentaires, et ici le texte est quasi identique. J'ai choisi Matthieu parce que, me semble-t-il, il a quelques détails en plus. Matthieu 17, verset 1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme, Jésus donc, soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Jésus leur dit. Il répondit, Jésus, il est vrai qu'Élie doit rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ce partage, je l'ai scindé en deux parties. Quelques explications sur la transfiguration elle-même et une deuxième partie, quelle application dans ma vie d'enfant de Dieu et même quelle application au quotidien. Et donc, dans cette première partie, nous savons que Dieu, tout au long de la Bible, a veillé avec un soin jaloux à ce que la gloire de ce qui appartient à son Fils nous soit communiquée. Cette scène de la transfiguration, elle donne aux disciples et à nous-mêmes un petit aperçu de la gloire personnelle, immuable, éternelle de Jésus. En fait, cette scène est une anticipation de sa venue en gloire sur terre. Et donc, cette transfiguration nous aide à rentrer un peu plus dans le mystère de Jésus-Christ, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et pour avancer, peut-être vous posez-vous la même question que moi, mais qu'est-ce que viennent faire Moïse et Élie là au milieu? Leur apparition semble inattendue. D'autant que ces deux hommes apparaissent aussi avec une forme de gloire. Ils sont revêtus eux-mêmes de ce qui est leur nouvelle vie. Ils arrivent du ciel. Alors, c'est simple, somme toute. Sur terre, l'un, Moïse, appartenait à l'époque de la loi, on nous l'a rappelé, et l'autre, Élie, est le représentant des prophètes. La première chose pour vivre cette scène, c'est qu'il faut que je sois réellement convaincu de la réalité de cette apparition. Ils ont vu des personnages comme vous et moi, les trois disciples. La deuxième chose, c'est qu'ils ont entendu que Moïse et Élie parler avec Jésus de sa mort à Jérusalem. C'est donc que Moïse et Élie étaient au courant de ce qui allait se passer. Et aussi, ils vont confirmer l'enseignement de Jésus, que nous allons voir un peu plus tard, qui nous a été cité dans le paragraphe précédent de Matthieu 16. Ils connaissent les événements à venir, parce qu'ils sont du même bord. Ils sont côté ciel et pas côté ténèbres. Ils ont vécu des choses. Tous les deux, de leur vivant, ont vu Dieu, entre guillemets. Ont vu la gloire de Dieu. Moïse lui-même, nous le savons, ça a été cité, avait un visage qui rayonnait quand il redescendait de la montagne, au point que les Israélites ont dit « il faut que tu mettes un mouchoir devant ton visage ». Ici, plus que cela, ce texte nous parle de la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau, mais il nous parle aussi de la différence, car s'il y a continuité de gloire, il y a la différence totale que ici, c'est le personnage intégral de Jésus qui rayonne, non plus seulement son visage. Alors ces deux hommes, ils avaient quitté la terre depuis longtemps, et ça nous donne pourtant une petite idée de l'activité des saints, de ceux qui nous ont quittés, de ceux que nous ne voyons pas, qui sont dans une sphère invisible à nos yeux de chair. Avez-vous remarqué qu'ils sont reconnaissable. Et pourtant, ils n'ont pas été connus sur terre par les trois disciples. Ils ne sont pas, ça me permet de faire une petite aparté, selon une doctrine auquel je ne peux adhérer, endormis en attendant la résurrection. Je vous rappellerai simplement que selon Matthieu 22, Dieu est le Dieu non pas des morts, mais des vivants. Je vous rappellerai que selon la demande à la voyante, Samuel est apparu et il dit même à la voyante, mais pourquoi est-ce que tu me déranges? Je vous rappellerai que le brigand sur la croix a entendu ces mots, aujourd'hui même tu seras avec moi sur le paradis, dans le paradis. Et puis pour finir, la description que nous fait la parole entre le pauvre Lazare qui est dans le sein d'Abraham et le mauvais riche qui est dans l'éloignement de Dieu. Il y a donc une activité des saints dans l'au-delà qui nous échappe, mais il est une réalité. Mais alors pourquoi encore Moïse et Élie, je vous l'ai dit? Tout simplement parce que Moïse, en effet, est le personnage type de la loi, et vous savez que Dieu avait interdit en Deutéronome 18 qu'il y ait un quelconque voyant en Israël. Et en compensation, il avait dit, mais puisque c'est un besoin pour vous, le peuple, je vous donnerai des prophètes. Et donc, Élie est apparu après Moïse, et en tant que représentant, bien sûr, parce qu'il y en a eu une multitude, il est apparu un peu comme un super Moïse, Élie. Et donc, il représente les prophètes. Élie, on le sait, je le dis vite, vous avez vu dans le texte, qu'il a été aussi, non pas réincarné dans Jean le baptiseur, mais qu'en effet, l'Esprit de Dieu est venu habiter Jean le baptiseur pour préparer la venue de Jésus-Christ le Messie. En fait, Moïse et Élie ont vu de leur vivant, je dis bien vu entre guillemets, la gloire de Dieu. Et ils sont donc, dans cette scène, les serviteurs attitrés, les porte-paroles obligés ou évidents, en tant que témoins de l'ancienne alliance, pour participer à l'instauration de la nouvelle alliance. Ils sont à la charnière, et c'est le thème de la transfiguration. C'est la charnière, c'est l'annonce de la bascule entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui va avoir lieu dans quelques semaines ou mois après cette scène. En effet, à la mort et la résurrection de Jésus, nous avons affaire à un nouvel exode. Comme le peuple avait quitté l'Égypte, symbole du pays du péché, Jésus, par sa mort et résurrection, va introduire le peuple de Dieu dans un nouvel exode de la libération du pays, du péché, de la mort spirituelle éternelle. Quel merveilleux, comme dit un commentaire, fil rouge entre l'Ancien Testament et le Nouveau, qui nous permet de contempler un peu mieux la face de Jésus, de voir Jésus. Alors une nuée lumineuse les enveloppa, dit le texte. Vous savez que dès le baptême au Jourdain, la Trinité du Dieu vivant est là pour manifester sa cohésion pour appliquer le plan de rédemption. Il est dit ce texte que vous connaissez. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous avez remarqué que le verset 5 que je vous ai lu de la Transfiguration dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Dieu ne change pas de plan. Dès le baptême, il a mis en place un projet de rédemption. Il l'a annoncé. Jean le baptiseur en était témoin. Et les choses continuent. Cela nous est renouvelé. Alors vous savez que cette nuée, je pense que chacun d'entre nous, et moi-même, nous aurions vécu la scène, nous n'aurions pas fait plus les malins que les trois disciples. Pourquoi? Pour des Juifs, cela symbolisait la présence de Dieu sur terre. Rappelez l'histoire du tabernacle, la demeure de Dieu sur terre et tout. Donc pour trois Juifs, c'était se trouver environné par la gloire de Dieu. Et on comprend qu'ils soient tombés face contre terre et que Jésus ait dû les relever. Mais, deuxième partie, comment s'approprier ce récit pour qu'elle ne soit pas seulement pour chacun d'entre nous un fait de l'histoire chrétienne. Vous savez, comme les enfants d'école du dimanche, vous lisez une demi-phrase. Ah oui, je connais. Et le drame de chaque moniteur et monitrice, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? En fait, si l'on rentre un peu dans ce sujet, on s'aperçoit que Jésus n'a pas seulement désiré que ses trois disciples soient des témoins, mais qu'il les a aussi associés à la scène. Alors vous savez, on dit que Jésus, c'est le meilleur des pédagogues, des enseignants, et toute la Bible est écrite dans ce terme, dans ce sens. Aussi, c'est toujours stratégique que de revenir au paragraphe un peu d'avant pour mieux comprendre une scène. Alors je vous invite à regarder au chapitre 16, ce que l'on appelle la confession de Pierre, tu es le Fils du Dieu vivant, et puis aussi la fin du chapitre où Jésus annonce ses souffrances. Le premier enseignement pour nous, enfants de Dieu, ou en parcours pour l'être, se résume à une question. À qui est révélée la nature divine, la gloire de Jésus et l'œuvre annoncée de la croix? Et cela commence par cette question stratégique que Jésus pose à ses disciples et à moi aujourd'hui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En fait, pour contempler Jésus, pour voir la face de Jésus, il faut être né de nouveau. Vous naissez d'abord une première fois de la chair, quand votre maman vous met au monde. Mais pour contempler Jésus, il faut que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père qui est dans les cieux, fasse de vous une nouvelle nature. Autrement, il est impossible de contempler la gloire de Dieu. Et Jésus, comme je l'ai dit, nous pose aujourd'hui, dans ce texte, encore cette question. Qui suis-je pour toi? Un prophète? Un gars qui a des paroles sympathiques, encourageantes? Ou infiniment plus que cela, le Dieu d'éternité fait homme, le seul chemin pour monter sur le rocher, comme dit le psaume, qui est trop élevé pour nous. Le deuxième enseignement, et nous le parcourons simplement de mémoire, que Jésus va rappeler, il va parler du royaume à Pierre. Avec cette notion des clés du royaume, c'est un message à lui tout seul, je ne veux pas y rentrer. C'est bien sûr une analyse complètement erronée qu'en ont fait l'Église catholique romaine, en pensant que c'était Pierre qui avait les clés du royaume, alors que ça voulait simplement dire que temporairement, Pierre et ses amis allaient ouvrir l'évangile aux Juifs d'abord, on lit ça dans les Actes, aux Samaritains et aux centurion Corneille, donc aux païens. Et qu'il allait, en somme, le rendre accessible en ouvrant la porte par le témoignage de l'évangile, en leur ouvrant la porte à la possibilité d'une nouvelle naissance. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que ici, on voit apparaître une chose qui nous est dit d'ailleurs dans les trois textes, les trois évangiles. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Croyez-vous que vous êtes dans le royaume de Dieu? Il y a des fausses doctrines qui disent qu'il faut préparer le royaume de Dieu, comme si Dieu comptait sur les hommes pour le préparer. Ce n'est pas tout à fait ça. Il dit que, en fait, et si vous avez, je pense, tous des Bibles où il y a un glossaire à la fin, vous savez ce que c'est? C'est un petit dico. Et quand vous avez dans votre Bible un mot avec un astérix, au lieu de vous coucher un peu plus bête que la veille, eh bien vous allez voir à la fin, dans le glossaire. Et il dit quoi le glossaire? Le règne ou royaume déjà prédit dans l'Ancien Testament a été manifesté dans le ministère de Jésus. Il est entièrement présent dans la vie des croyants. Cependant, sa manifestation complète et définitive est à venir. C'est une réalité, le royaume de Dieu est en place, même si son achèvement total, comme notre salut, sa finition terminale aura lieu lors du retour de Jésus. Le troisième enseignement, et je vous cite tout ça, parce qu'on comprend mieux, bien sûr, l'enseignement de la transfiguration, c'est que ce royaume se vit dans la souffrance de son chef, et de ses sujets. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et puis au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. » Pour vivre dans le royaume de Dieu, pour contempler Jésus, pour voir la face de Jésus, c'est vrai qu'il y a un prix à payer. Qu'il y a un prix à payer de renoncer à notre chair, c'est-à-dire à ce que nous pratiquions naturellement. Et puis, donc, ça se traduit par des choix de vie, par des soumissions à la parole de Dieu, à l'enseignement de Dieu. Et nos trois disciples, ils vont vérifier cela avec leurs yeux et leurs oreilles. Il nous est dit quoi dans ce texte de la transfiguration, les premiers mots? Jésus prie et conduit Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Prendre et conduire. Vous avez remarqué qu'il y avait une décision de Jésus, mais il y avait aussi une acceptation de cette décision. Parce que nos trois disciples, ils auraient pu dire, t'as vu déjà tout ce qu'on a appris, t'as vu déjà toutes les galères qu'on a, moi j'ai envie de rester en bas, m'asseoir sur un rocher et attendre. Lui, il veut encore une fois monter sur la montagne, je le laisse aller là-bas. Cela nous indique, bien sûr, que Jésus veut emmener ses enfants plus loin, plus haut dans la foi, mais qu'il me faut aussi accepter de marcher, de prier, d'étudier sa parole, et en profondeur, accepter de monter. Monter ! Tous ceux qui font de la rando ici, et même de la balade, vous diront que, logiquement, c'est plus fatigant que de rester assis au salon. Mais qu'il y a une récompense, une réjouissance à monter sur la montagne pour contempler Jésus, pour voir la face de Jésus. Alors, une aparté importante, voir la gloire de Dieu, ce n'est pas attendre une apparition, une illumination, comme Bernadette. La gloire, voir la gloire de Dieu, nous y reviendrons, c'est selon 2 Corinthiens 3, regarder avec le miroir de la parole de Dieu par-dessus le mur de séparation, par-dessus notre conditions terrestres, voir Jésus au ciel. C'est à l'aide du miroir de la parole de Dieu, contempler l'amour, la grâce, la puissance de Dieu dans la création, comme nous le rappelle Romains 1, les perfections invisibles de Dieu se voient fort bien dans la création. Mais pourquoi ? Pour que ça change mon quotidien, ma vie sur terre. Pourquoi il y a un risque ? C'est que le miroir, il est en place. Mais comme les disciples, je peux être accablé de sommeil. Déjà, il a fallu monter sur la montagne, mais en plus, ils se sont endormis, vous savez, comme à Gethsémané. Loin de moi, et j'espère de vous, de critiquer ces trois hommes. N'avez-vous jamais dormi aux enseignements que vous avez reçus de Dieu? N'avez-vous jamais oublié ce que Dieu a voulu vous dire? Ou jamais appliqué ce qu'il vous a montré? Le miroir de la parole de Dieu est là. Encore faut-il le regarder, y attacher mon regard, y passer du temps pour entrevoir Jésus et sa face, pour comprendre qui il est et que ça change mon quotidien. En un mot, suis-je réveillé? En un autre mot, la Bible appelle ça es-tu ou suis-je un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Alors ça, c'est bizarre, hein? Alors, l'apôtre Paul, qui n'allait pas par demi-mot, on disait, la Bible dit que quand on le voyait, il était un petit homme, mais quand il était loin, il avait des forces de mots, et que ça dérangeait certains. Il nous dit ceci, ce constat terrible, et dont nous allons voir illustration dans cette scène de la Transfiguration. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels ou des chrétiens que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants ou des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Je vous disais que dans cette scène de la Transfiguration, il y a des mots de Pierre qui dit ça, parce que souvent on lui disait, allez toi, dis-leur, dis-lui. que les autres disciples le poussaient en avant. Et il y a ces deux facettes que l'on peut entrevoir. Ne sachant pas ce qu'il disait, Pierre propose à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons trois tentes. » Vulgairement, qu'est-ce que ça fout là? C'est un peu comme si vous êtes dans une réunion de louanges, comme ce matin avant le culte, chacun a les yeux tournés vers Jésus, chacun y va d'un verset, d'un chant, d'un témoignage, et puis je me lève et dis, « Faudrait changer la tapisserie !» Il n'est pas à sa place. C'est pas sérieux ce qu'il dit. Cet homme n'est pas digne de confiance. Suis-je un chrétien charnel? Il y a dans ce texte, et loin de moi, l'affirmation de la réalité de ces trois disciples. Mais il y a question. Si ces trois hommes étaient encore des hommes charnels, leur objectif prioritaire était l'instauration du royaume terrestre. En un mot, bouter dehors les Romains et que, enfin, on vive dans le bien-être sur la terre. Quand on vous entendait parler d'évangile de la prospérité, ça y ressemble très fort. En gros, avec Jésus, la terre pourrait être tellement belle qu'on n'aurait plus besoin qu'il revienne. Quelle est l'aspiration profonde de mon cœur pour cette terre? À quoi est-ce que je passe mon temps? Surtout quand on est retraité. Mais enfin, il y a aussi tous les jours, tous les soirs de la semaine, tous les week-ends, quand on est en activité. Quel est mon objectif prioritaire dans la vie? Suis-je un chrétien de cette terre ou un chrétien déjà au ciel? Suis-je un chrétien spirituel? Parce que, loin d'accabler les trois disciples, on peut aussi penser qu'ils désiraient rester sur ce sommet avec Jésus. Et qu'en comparaison de ce qu'ils vivaient, c'est la suite d'ailleurs dans la guérison des démoniaques et tout du chapitre, les paragraphes suivants, aux comparaisons de toute la misère de cette terre, comme des enfants spirituels, des hommes spirituels, ils désiraient vraiment rester avec Jésus. Il y a là, donc, dans cette scène, les deux pistes que nous pouvons choisir de vivre. Mais c'est quoi un chrétien charnel? Alors, je pense que vos enseignants peuvent, on va dire, largement approfondir le sujet, parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je n'en ai fait qu'un très faible résumé. C'est un chrétien charnel qui parle, pense, agit, fonctionne comme ses voisins, un croyant. C'est un chrétien qui n'aimerait pas croiser le regard de Jésus dans ce qu'il est en train de penser, de vivre ou de dire. Vous savez, il y a un frère américain qui était à l'église de Chassieux, qui est reparti dans son pays. Il disait, un chrétien spirituel, c'est Jésus en t-shirt et basket. C'est-à-dire un homme, une femme, qui est imprégné de la face de Jésus, au point que son comportement quotidien est, on va dire, à l'image de celui de Jésus. Il est, je loupe le mot, mais comme imbriqué par Jésus, formaté, voilà, par Jésus. et par l'Écriture. Et donc, quand il a des rapports avec son entourage, il porte le nom de Jésus. Peut-être pas avec des grands discours, mais juste parce qu'il va dire « Ah mais non, moi en tant que chrétien, je ne peux pas vous suivre dans ce terrain-là. » Dans les affaires, c'est très court. Ou « Je ne peux pas parler avec des mots qui sont ceux du peuple incroyant et pas ceux d'un enfant de Dieu. » Je parle de l'argot et ainsi de suite. Et c'est quoi un chrétien spirituel? C'est quelqu'un qui aime côtoyer Jésus. Au point que Jésus a déteint sur lui. Vous savez que dans les couples aimants, on parle de mimétisme. C'est-à-dire que l'un arrive à colorer l'autre. En bien, hein, bien sûr. En bien. Au point que, bon, ils arrivent un peu à être d'accord, hein, presque sans réflexion sur les grands thèmes. Mais aussi, c'est parce que c'est l'amour qui fait ça. Et quand on aime Jésus, on respire Jésus, on transpire Jésus, et donc on n'a pas de peine à être disciple de Jésus. Et donc, à, comme lui, vouloir faire des disciples. On croit à l'intégralité de la Bible et on s'évertue à appliquer tous ses enseignements, pas en sautant certains parce qu'ils nous dérangent. Et pourquoi donc est-ce si important d'être un chrétien spirituel? Si important de voir, de chercher à voir la face de Jésus comme l'introduction? Parce que dans nos vies, il se passe des choses pas faciles. Je vais vous en citer une seule. Parmi ces trois hommes, vous savez quel a été leur avenir? Alors, il y en a un, il nous a fait l'apôtre Pierre, l'épître de Pierre, où il dit des choses fort belles. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, et ainsi de suite. C'est l'épître de Pierre. Nous avons Jean. Vous lisez le premier chapitre de l'évangile de Jean, ou celui du premier, de sa première épître. Ah, il a été scotché, Jean, par ça. Ça a changé totalement sa vie. Et bien sûr, dans l'île de Patmos, lors de la, où il écrit l'Apocalypse, la Révélation, qui voit la gloire de Jésus. Et là aussi, il tombe par terre. C'est assez souvent, il tombe face contre terre. Mais pour parler de la difficulté de la vie, notre ami Jacques, un des trois héros de la scène, il va mourir de l'épée, quelque temps plus tard, martyr, commandité, meurtre commandité par le roi Hérode. Voilà pourquoi c'est important d'être un chrétien spirituel. Pour vivre une vie au quotidien marquée par Jésus, mais avec la force que donne Jésus. Et puis je vais finir par quelque chose encore de plus, j'ose dire grandiose. Si la parole de Dieu ne me le disait pas, je ne m'autoriserais pas à vous le dire. Jésus a emmené, pris, conduit ces trois hommes sur la montagne, il les a non seulement fait voir, vivre quelque chose, mais il les a associés à cette scène. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour moi, Éphésiens 2, verset 6 ? Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seulement assis rue Pierre-Senoy. Vous êtes assis, et ça change notre vie, avec Moïse et Élie dans les lieux célestes. Le quotidien devient différent. Et vous allez voir que 2 Corinthiens 3 confirme cela et résume cette scène de la transfiguration. Rappelons-nous que dès la nouvelle naissance, nous sommes déjà transfigurés à l'image de Jésus-Christ. Et ça change complètement la notion de ce qu'est la nouvelle naissance. Cet été au Chambon, il y a un frère qui nous a scotchés avec Jean 3. Vous savez, l'histoire du vieux Nicodème. Comme je lui ai dit, écoute, moi c'est le genre de chapitre, je dis, je ne sais pas quoi dire que personne, que les gens n'aient pas entendu 10 fois. Il a décortiqué ce qu'était la nouvelle naissance. Et il a dit cette mot que j'ai mémorisé depuis, c'est une transformation génétique spirituelle. C'est comme si vos gènes charnels de cette terre vous avaient fait renard et que la nouvelle naissance ait transformé vos gènes pour faire de vous un aigle qui vole dans le ciel. Est-ce que l'aigle qui vole dans le ciel a encore envie de traîner le museau par terre? Il est certes de cette terre, mais comme on dit, il a déjà le cœur et l'âme, l'esprit au ciel. 1 Corinthiens 3, et je vais m'arrêter, nous dit ceci. Si le ministère de la mort, donc la loi de Moïse, qu'avait apporté Moïse, gravé avec des lettres sur des pierres, donc on voit bien que ça parle de Moïse, a été déjà glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit, l'Évangile, ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, la loi, a été glorieux, le ministère de la justice, l'Évangile, est de beaucoup supérieur en gloire. Et ce que je vous avais cité, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, ou par son Esprit. L'achèvement intégral du royaume de Dieu est certes à venir. Notre salut est acquis, mais la perfection de notre salut sera acquise, réelle en effet, au retour de Jésus-Christ. Mais l'enfant de Dieu, transformé génétiquement, spirituellement parlant, est déjà assis avec Dieu dans les lieux célestes. Il est déjà transfiguré en gloire, même si la réalité de celle-ci sera parfaitement achevée lorsqu'il sera au ciel et bien sûr ayant reçu un corps glorifié à l'image de celui de son Seigneur, mais aussi de son frère, Jésus-Christ. Car si nous avons toutes ces choses par grâce, c'est parce que notre Seigneur les a acquises et qu'il les donne à ses frères. Et je finis par ces 3 questions que Jésus nous pose. Qui est-il pour moi, Jésus? Chacun de vous peut seul répondre. Deuxièmement, est-ce que je suis un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Et enfin, le miroir de ma communion avec la gloire de Jésus fait-il de moi un chrétien rayonnant? Vous savez, quand vous lisez des revues, genre Porte Ouverte et tout, vous avez remarqué la tête des photos, la photo et la tête des gens qui sont dessus? Moi, je ne veux pas faire politique, hein, mais bon, puis ils l'ont choisi, mais la tête de M. Trump, elle n'est pas marrante. Ils l'ont peut-être choisi. Hein, pour... Quand on voit ces hommes qui vivent près de Jésus, que le quotidien terrible oblige à vivre près de Jésus, ils ont un regard, un sourire de l'au-delà. Voir Jésus, contempler Jésus, ne nous laisse pas indemnes. Amen.